excellente question pour vous. Qu'est-ce qui va se passer sur la Terre après l'enlèvement de l'Église? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse à la fois terrifiante et réconfortante, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je bénis Dieu pour tout le bon enseignement qu'on reçoit dans le livre de l'Apocalypse ces jours-ci. Je pense réellement que pour les croyants, cette instruction de Dieu est très réconfortante. Et pour ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus seul pour le pardon de vos péchés, eh bien ce qu'on apprend dans ce livre devrait vous inciter à ouvrir la porte de votre cœur pour laisser entrer Jésus, celui qui seul peut vous donner l'assurance de la vie éternelle, ainsi que toutes les promesses qui s'y rattachent, entre autres, celle d'éviter le jugement qui viendra sur cette terre. Alors voici les questions qu'on va poser à ce livre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? Pourrions-nous vivre dans la paix sur cette terre si on enlevait toutes les armes, du revolver à la bombe atomique? Devons-nous interpréter littéralement les plaies futures de la grande tribulation qui sont prédites dans l'Apocalypse? Pouvons-nous savoir quand aura lieu la grande tribulation? Pourquoi le livre de l'Apocalypse est-il le dernier de la Bible? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes des chrétiens quand ils étudient le livre de l'Apocalypse? Qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur Jésus reviendra sur la terre? Jésus est-il mort pour tout le monde? Pourquoi y a-t-il eu une demi-heure de silence dans le ciel quand Jésus a ouvert le septième sceau dans le livre de l'Apocalypse? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner les réponses de la Bible à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu as beaucoup de choses à nous enseigner aujourd'hui, on s'en réjouit déjà. On goûte presque à ce que tu vas nous donner cette bonne nourriture spirituelle pour nos âmes. Merci Seigneur, touche nos cœurs par ta parole. Amen. À toi Régent.
Merci beaucoup Caro. Le jugement de la grande tribulation. Au chapitre 8 du livre de l'Apocalypse, nous assisterons à l'ouverture du septième et dernier sceau. À ce moment, les sept anges entreront en scène et ils souffleront dans leurs sept trompettes. Nous verrons la fonction des quatre premières trompettes dans ce même chapitre. Après la pause du chapitre 7, où un groupe de Juifs et un groupe de gentils venant de la grande tribulation reçoivent le sceau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, achève d'ouvrir les sceaux du livre qu'il était le seul à pouvoir recevoir. Cette séquence se répétera plusieurs reprises au cours de notre lecture. Nous pourrons ainsi facilement suivre le cours du récit. Nous aurons quatre séries de sept éléments chacun, et tous sont reliés à la période de la grande tribulation. L'apôtre Jean nous donnera sans interruption les six premiers éléments de chaque série. Ensuite, au cours d'une pause dans l'action, il nous présentera du matériel supplémentaire pour nous permettre de comprendre la signification de cette série. Et finalement, il nous présentera le septième et dernier élément. Ce dernier élément nous introduira à la série suivante. Cela signifie que ces séries sont reliées entre elles, car elles appartiennent toutes à la même période. Nous pourrions, de cette manière, éviter deux pièges. Le premier consiste à se perdre dans le récit. Ce danger est réel lorsqu'on cherche à faire cadrer le récit biblique dans un système d'interprétation préconçu. Le deuxième consiste à sombrer dans le sensationnalisme. Car en évoquant le monde surnaturel et le céleste, on peut facilement être tenté de rechercher les effets faciles. Pourtant, ce récit, tel qu'il se présente dans la Bible, fait preuve d'une remarquable sobriété. Nous avons déjà mentionné qu'à partir du chapitre 4, tout le contenu du livre de l'Apocalypse se trouve dans un futur encore indéterminé. L'apôtre Paul fait référence à ce temps à venir au verset 19 du chapitre 1er. Il s'agit du temps qui doit arriver ensuite. Actuellement, nous vivons au temps de l'Église. Dans un sens, les événements décrits au chapitre 8 ne nous concernent pas, car, en ce temps-là, l'Église aura été enlevée de la terre. Beaucoup de gens sont terrifiés à l'idée de lire l'Apocalypse. Il faut bien admettre que, avec l'apparition des quatre cavaliers de l'Apocalypse, plusieurs jugements terribles et effroyables feront éruption sur la terre. Leur menace est si redoutable qu'ils laissent une empreinte durable sur la pensée du lecteur. Mais, si vous êtes croyant, vous pouvez vous réconforter en apprenant que ces calamités auront seulement lieu après l'enlèvement de l'Église. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez été scellé afin d'être présenté à Jésus-Christ lorsque l'Église quittera ce monde avant la période de la grande tribulation. Quatre séries de sept éléments. Le récit des sept trompettes nous conduira à la pleine intensité de la grande tribulation. Les sept sceaux apportent les jugements qui sont la juste rétribution des activités pécheresses de l'homme lorsqu'il s'éloigne de Dieu. Nous avons vu que le sixième sceau apportait le jugement de la nature avec le soleil qui s'obscurcissait, la lune qui devenait rouge comme du sang et les étoiles qui tombaient sur la terre. Quand le septième sceau sera ouvert, les sept trompettes révéleront que Dieu juge directement et surnaturellement une race rebelle. Les quatre séries peuvent être décrites de la manière suivante. Les sept sceaux, suivis des sept trompettes, suivis des sept personnes et finalement les sept coupes de colère. Tout cela arrivera en même temps pendant la période des sept ans de la grande tribulation. Mais, avec ces quatre séries, nous verrons cette période sous quatre angles différents. Premièrement, avec les sept sceaux, nous assistons au jugement de Dieu résultant de l'activité rebelle de l'homme. Le jugement de Dieu frappera le pécheur. Comme nous l'avons déjà vu, le premier sceau envoie le cheval blanc sur la terre. Il trompera l'humanité avec un faux sentiment de paix et d'unité. L'apôtre Paul prophétise sur ce temps dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Le deuxième sceau enverra le cheval roux de la guerre. La guerre vient du cœur de l'homme. Beaucoup de gens pensent que si nous enlevions toutes les armes du revolver à la bombe atomique, nous pourrions alors vivre dans la paix. Malheureusement, la guerre est profondément ancrée dans le cœur de l'homme, car elle est la conséquence du péché. Avant de pouvoir espérer mettre fin à la guerre extérieure entre les personnes et les nations, nous devrons mettre fin à la guerre intérieure dans le cœur de chaque homme. Dès l'aube de l'humanité, Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Leur fils Caïn a ensuite tué son propre frère Abel. Le meurtre naît dans le cœur et la pensée de l'homme à cause du péché. La série des sceaux se poursuit ainsi jusqu'au sixième. Comme nous le verrons bientôt, le septième sceau introduit la série suivante, celle des sept trompettes. Elles expriment le jugement provenant d'une activité directe de Dieu. Après la série des sept personnes, nous voyons le jugement de Dieu résultant du combat de Satan contre Dieu. Satan sera alors démasqué. Finalement, avec les sept coupes de colère, nous verrons le jugement final de la grande tribulation. Ce jugement sera provoqué par l'action conjuguée de la rébellion de l'homme et de celle de Satan. Dieu les jugera tous les deux en même temps. La signification des symboles. Nous abordons une section qui renferme plusieurs symboles. Rappelons-nous toujours qu'un symbole reflète toujours un fait. Nous prendrons conscience, entre autres, qu'il existe plusieurs similarités étranges, mais indéniables, entre les plaies d'Égypte au temps de Moïse et les jugements introduits au son des trompettes au temps de la grande tribulation. Il est donc tout à fait prévisible et logique de s'attendre à ce que les plaies futures de la grande tribulation soient prises dans leur sens littéral si nous interprétons littéralement les plaies qui ont frappé l'Égypte au temps du Pharaon. Les symboles utilisés sont des symboles d'une réalité à venir. Le langage concret ne pourrait pas représenter à notre esprit l'immense terreur et tragédie de la grande tribulation. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous connaissons tous les terribles dégâts causés par une bombe atomique. Non seulement l'explosion peut-elle faire périr des milliers de personnes en une fraction de seconde, mais ensuite, les retombées radioactives rendent le sort des survivants encore plus terrible que celui des morts. Mais comment faire comprendre cela à une personne vivant au temps de l'apôtre Jean? Une telle personne ne possède tout simplement pas la capacité de comprendre que l'homme puisse concevoir, et encore bien moins utiliser contre ses semblables, une arme aussi destructrice dans notre monde supposément civilisé et évolué. De la même manière, nous ne savons pas quand aura lieu la grande tribulation. Elle pourrait avoir lieu dans quelques mois ou dans plusieurs siècles, mais je doute que nous puissions comprendre l'iniquité du cœur humain lorsque l'Esprit Saint n'y imposera plus aucune limite. La seule solution pour nous représenter ce temps d'intense corruption est le langage symbolique. Les calamités décrites ici dépassent toute tentative de description concrète. Nous devons toujours garder à l'idée que ce livre contient la révélation de Jésus-Christ, et ici, nous le voyons assumer un rôle inhabituel pour nous, celui de juge. Les symboles utilisés ne sont pas des entités floues et nébuleuses qui se dissipent dans le vide d'un système d'interprétation préconçu. Quand ces symboles sont utilisés, et ils le sont dans ce livre, leur signification nous est donnée. Les Écritures nous les expliquent. Nul besoin de recourir à notre imagination. Le livre de l'Apocalypse est le dernier de la Bible, car il requiert une connaissance minimale des 65 livres précédents. Cette condition est essentielle si nous voulons comprendre les images hautes en couleur de l'Apocalypse. Il est tout à fait illogique qu'un jeune chrétien commence à étudier ce livre. Il devrait plutôt commencer par la base de la foi chrétienne. Au cours de cette série d'émissions, j'enseigne présentement sur l'Apocalypse, mais seulement après avoir pris 5 ans pour explorer avec vous le contenu du reste de la Bible. Je crois que cela nous donne le droit d'étudier maintenant ce livre avec de bonnes chances d'en comprendre le sens. Je n'aurais jamais couru le risque d'enseigner sur l'Apocalypse sans prendre au préalable cette nécessaire précaution. Rappelons-nous toujours la règle d'interprétation des prophéties proposées par l'apôtre Pierre que nous pouvons lire dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En d'autres mots, c'est une erreur de tirer un verset hors de son contexte pour tenter de l'interpréter. Et de la même manière, c'est une erreur de tirer l'Apocalypse de son contexte biblique pour tenter d'en comprendre le sens. Pour bien assimiler le message de l'Apocalypse, nous devons avoir étudié les autres livres de la Bible. Pourquoi? Parce que, entre autres, la signification des symboles utilisés dans l'Apocalypse est souvent donnée dans les autres livres de la Bible. Mais si nous n'étudions pas ces autres livres, nous risquons fort de mal interpréter ces symboles. Et, croyez-moi, on retrouve cette erreur dans plusieurs commentaires bibliques. Le réconfort de l'Apocalypse. L'ouverture du 7e sceau nous introduit aux 7 trompettes. Le livre de l'Apocalypse est structuré d'une manière précise, et si nous suivons cette structure proposée par l'auteur, nous éviterons plusieurs écueils. La première erreur est le fanatisme. Je crois que l'interprétation des prophéties présentées ici est la meilleure. Par contre, je connais des chrétiens qui aiment Dieu et que Dieu aime, et qui ne partagent pas mes opinions sur cette interprétation des prophéties de l'Apocalypse. Nous devons distinguer les doctrines fondamentales et essentielles de la foi chrétienne. L'interprétation pré-mille, à-mille ou post-mille ne fait pas partie de ces doctrines essentielles. Même si je favorise l'approche prémillénariste, je ne remettrai jamais en question le salut d'un croyant qui ne partage pas mes vues sur cette question. Une deuxième erreur est le sensationnalisme. Certains chrétiens sont absolument convaincus que la grande tribulation est pour bientôt ou même qu'elle a déjà commencé. Ils épluchent les journaux à la recherche de l'Antéchrist et ils en découvrent un nouveau presque à chaque semaine. Une autre erreur est de laisser le livre de l'Apocalypse nous effrayer. Nous ne devrions pas avoir peur de ce livre. Si vous êtes vraiment sauvé, le fait que Dieu jugera un jour le monde devrait vous réconforter et non de vous effrayer. Personnellement, je remercie Dieu parce qu'il jugera un jour le monde, car ce monde devient de plus en plus fou à chaque jour qui passe. L'humanité s'est empêtrée dans le bourbier du péché et il s'enfonce de plus en plus. Et ce sont les personnes que le monde admire le plus qui les entraînent dans l'aveuglement spirituel. Je remercie Dieu qu'il jugera un jour le monde parce qu'il le jugera avec justice. Et si vous êtes chrétien, vous n'avez rien à craindre du jugement de Dieu car il vous a déjà déclaré non coupable et il ne reviendra jamais sur sa décision. Les gens me demandent souvent de parler sur différents sujets d'actualité pendant les émissions de radio. Mais Dieu ne me demande pas de dénoncer tout le mal qui existe. Il me demande de faire connaître sa parole, contenue dans la Bible, au plus grand nombre. Et je m'efforce de lui obéir. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans ce monde pour établir un royaume de justice. Et il jugera le monde avec équité. Je ne voudrais pas faire ce boulot à sa place. Il conduira ce monde dans les sentiers de la justice et il le jugera avec puissance. Cela ne correspond peut-être pas à votre conception du petit Jésus, mais Jésus est en réalité le Seigneur de l'univers. Il est d'abord venu marcher parmi nous dans l'humilité et la paix et il a été crucifié pour sa peine. Lorsqu'il reviendra, ce sera avec puissance et jugement. Nous avons déjà vu que la colère de l'agneau sera terrifiante pour ceux qui sont encore sur la terre quand il reviendra. Lorsque vous parlez du gentil petit Jésus, vous devriez peut-être apprendre à mieux le connaître. Il est mort pour vous. Il vous aime. Il désire vous sauver. Mais si vous méprisez ses appels à la repentance et vous éloignez de lui, il sera un jour votre juge. Son jugement sera terrible et sans appel. Vous serez alors bien obligé d'admettre son existence et sa puissance, mais alors, il sera trop tard. On m'accuse parfois de vouloir faire peur aux gens. J'aimerais faire peur à certaines personnes si cela pouvait leur permettre d'aller au ciel, mais elles sont trop sophistiquées et trop cyniques pour cela. Mais, je le répète, un jour, nous serons tous jugés. Et un jour, vous devrez rendre compte de votre décision pour ou contre Jésus-Christ. Pour ma part, je suis très heureux de savoir qu'il reviendra un jour sur la terre et qu'il ne laissera pas aller ce monde sur la voie du suicide collectif dans lequel il s'est résolument engagé. À mon avis, cela a déjà trop duré. L'ouverture du septième sceau. Chers amis, débutons la lecture d'Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Incroyable, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas présenté une anecdote savoureuse de J. Vernon McGee depuis un certain temps. Monsieur McGee est le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes. J'aimerais vous partager un souvenir amusant de son impressionnante carrière de pasteur, orateur et animateur de radio. Je lui laisse la parole. Il y a plusieurs années, on m'a invité à donner une conférence à un groupe de jeunes en Californie. Il y avait bien 300 ou 400 adolescents dans ce camp de vacances. Je me promenais sur le terrain lorsque j'ai vu un groupe de jeunes filles s'avancer vers moi. Ils discutaient ferme avec un jeune homme qui se trouvait au milieu d'elles, et ils ne semblaient pas avoir le meilleur de l'échange. Il faisait beaucoup de bruit, et soudain, le jeune homme m'a aperçu. Il s'est écrié, « Monsieur McGee, saviez-vous qu'il n'y aura aucune femme au ciel ?» J'ai répondu, « Non, je ne le savais pas. Pourriez-vous me citer un texte dans la Bible pour confirmer votre assertion ?» Il a répliqué, « Bien sûr, dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il y aura au ciel un grand silence pendant une demi-heure. Si l'on trouvait des femmes là-haut, elle ne serait jamais capable de tenir le coup sans parler pendant aussi longtemps. » Inutile de vous dire que la discussion a repris de plus belle. On peut dire que son interprétation de notre passage a fait l'unanimité. Personne n'était d'accord avec lui, et il ne m'a pas convaincu non plus. En ouvrant notre étude de ce verset sur une note aussi légère, je ne voulais pas manquer de respect envers quiconque, et encore moins envers ce passage. Au contraire, ce dernier doit être pris au sérieux. Le Seigneur Jésus-Christ ouvre le septième sceau, et à ce signal, le son des sept trompettes retentit. Le Seigneur Jésus est visiblement le chef d'orchestre. Nous devons nous rappeler qu'il est la figure centrale du livre. L'Apocalypse nous le présente dans toute sa gloire et, plus spécifiquement, comme le juge de toute la terre. Les Évangiles nous présentent Jésus comme un humble enseignant itinérant qui faisait beaucoup de bien autour de lui. Cette description est exacte, mais incomplète. Bientôt, nous le verrons sous un aspect moins familier. Jésus fera alors connaître sa colère, qui est la colère de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu, car Jean le Baptiste nous dit de lui dans Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens ne sont pas perdus parce qu'ils sont pécheurs, ils sont perdus parce qu'ils ont rejeté Jésus, celui qui est mort pour eux. Il est même mort pour ceux qui le rejettent et qui seront perdus pour l'éternité. Sauf que pour eux, son sacrifice aura été inutile. Ceux qui adoptent envers Jésus-Christ ce genre d'attitude piétinent son sang versé pour eux. La scène devant nous est empreinte de solennité. Le Seigneur Jésus ordonne une trêve sur tous les fronts, le ciel, le royaume des morts et la terre, car rien ne peut bouger sans sa permission. Déjà, il a miraculeusement arrêté des forces naturelles sur la terre lorsqu'il a ordonné que deux groupes précis reçoivent le sceau de Dieu. Et ici, pendant un bref moment, les activités relatives au jugement de Dieu cessent. Mais il s'agit d'un calme avant la tempête. Quelle est la raison de cet étrange silence? La patience de Dieu n'est pas encore épuisée. Lors de l'ouverture du sixième sceau, la nature a réagi avec un gigantesque soubresaut. Des hommes téméraires ont réfléchi pendant un instant. Mais, comme le pharaon au temps de Moïse, aussitôt le calme revenu, ils sont retombés dans leur mauvaise habitude. Avant de reprendre leur mauvaise activité, ils ont sans doute ri de leur moment d'hésitation. Ils auront pensé. Il existe certainement une explication logique et naturelle à ces phénomènes. Cela ne peut pas être Dieu, car il n'existe pas. Ce sont seulement des vieilles superstitions. Mais, en réalité, il s'agit du calme avant la tempête. Comme on l'a déjà dit, Dieu est miséricordieux. Et, lorsqu'il doit devenir le juge, il le fait à contre-cœur et sans aucun plaisir. Sa colère est toujours mesurée, maîtrisée et juste. Dieu n'aime pas juger, car il est lent à la colère. Le jugement de Dieu est une étrange activité. Il est écrit, dans la traduction « La Bible du Semeur », au prophète Ésaïe, chapitre 28, verset 21, « Car l'Éternel se lèvera comme au mont Peratim, et il s'indignera comme il s'est indigné dans la plaine de Gabaon pour accomplir son œuvre. Mais quelle œuvre insolite pour faire son travail, mais quelle tâche étrange! Oui, il est étrange, insolite et inhabituel de voir le Dieu d'amour juger les hommes. Comme l'enseigne cette fois le prophète Ézéchiel, chapitre 18, verset 32. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. » Convertissez-vous donc et vivez. Or, ce silence marque un moment de transition. Nous passons de la grâce au jugement de Dieu. Il attend. Et si ce n'est pas encore fait, il attend que vous veniez à lui, car il est un gracieux sauveur. À vous d'en profiter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, les versets 2 à 6. À vous tous, bonne lecture.
Merci, Régent. Ça m'a donné beaucoup de joie que tu mentionnes que le Seigneur Jésus reviendra dans ce monde un jour pour établir un royaume de justice, qu'il jugera le monde avec équité et puissance, et qu'il conduira ce monde dans les sentiers de la justice. Et tu as ajouté que ceci correspond peut-être à la conception que certains ont de celui qu'ils appellent le petit Jésus, alors qu'en réalité, il est le Seigneur de l'univers. Mes amis, avez-vous déjà parlé du Seigneur Jésus en disant « le petit Jésus » ? Quand j'entends ça, ça m'attriste beaucoup, puisque ça fait très longtemps qu'il a été le petit Jésus dans une crèche. Comme Régent l'a mentionné aujourd'hui, il est d'abord venu marcher parmi nous dans l'humilité et la paix, et il a été crucifié. Et il a aussi dit que sa colère sera terrifiante pour ceux qui sont encore sur la terre quand il reviendra. Je crois que c'est par ignorance que les gens parlent de lui comme étant le petit Jésus. Mais ça m'attriste quand même, puisqu'on réfère à mon Seigneur merveilleux, à mon Sauveur merveilleux, qui un jour est venu sur cette terre en prenant un corps humain comme le nôtre. Il a grandi, il a accompli plusieurs miracles, et il est mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés, et aussi de tes péchés, mon ami. Ce Jésus merveilleux a souffert à notre place. Il a reçu la condamnation que nous méritions tous pour nos péchés. Alors, mon ami, es-tu de ceux qui peuvent admettre qu'ils sont des pécheurs? Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu souffrir et mourir pour toi. Et le troisième jour, il est ressuscité glorieux. Jésus est vivant et aujourd'hui, il est à la droite de son Père, intercédant pour tous ceux qui sont couverts par son sang, celui qu'il a versé à la croix. Il intercède pour moi, car bien que je sois sauvé et que j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle par la foi en lui, j'ai encore besoin de lui comme avocat, puisque je suis loin d'en être arrivé à la perfection. Mais je sais que lorsqu'on croit en lui, on a la vie éternelle. Jésus lui-même a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et dans le 10e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 27 et 28, Jésus a dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Alors, mon ami, crois-tu en Jésus? Je serais porté à dire, en contraste avec ceux qui l'appellent le petit Jésus, qu'il est le grand Jésus, grand au-dessus de tous, Dieu lui-même qui s'est incarné pour venir prendre la peine de nos fautes sur lui, comme s'il était lui-même le plus grand des pécheurs, alors qu'il était sans péché. Alors, mon ami, il s'invite chez toi en ce moment. Il frappe à la porte de ton cœur. Demande à Jésus de te sauver. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande-lui ce cadeau de la vie éternelle. Il a payé cher et il te l'offre maintenant.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.